Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30, 17h, sur Campus Grenoble, 90.8. Corentin Bémol.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue amis auditeurs dans cette troisième édition de Microcité, votre shot d'actualité du vendredi. Toute l'équipe de l'émission est heureuse de vous retrouver ainsi que de retrouver notre cher technicien Louis Oscovin, confiné pendant quelques jours, bon retour parmi nous. Au sommaire de cette édition, J-18 avant l'élection présidentielle américaine, une élection sous tension dans un contexte de crise sanitaire, le match entre Joe Biden et Donald Trump pourrait-il tourner à la foire d'empoigne? On en parle tout à l'heure dans notre dossier spécial élection avec Mathilde Cariou et ses invités. Dans cette édition également, focus sur les noix AOP de Grenoble et sur les nuciculteurs qui les récoltent. Si la noix en Isère est une institution, elle demande cependant un travail acharné face à une météo pas toujours clémente, un sujet que nous présentera Shannon Marini en fin d'émission. Voilà, le programme est annoncé, vous écoutez Microcité, on est ensemble jusqu'à 17h. Allez, c'est parti! <musique> 16h31, c'est l'heure du journal avec Lucille Besse. Bonjour Lucille.
Bonjour Corentin, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy mis en examen pour association de malfaiteurs, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le parquet national financier. De nouvelles charges qui pèsent sur l'ancien président après 4 jours d'audition dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. 12 000 gendarmes et policiers mobilisés pour faire respecter le couvre-feu. Il entre en vigueur ce soir à minuit en Ile-de-France et dans 8 autres métropoles, dont Grenoble, Rouen ou Lille. Un homme de 25 ans mis en examen hier soir pour le meurtre de Victorine d'Artois. Il avait été placé en garde à vue mardi, près d'un mois après la disparition de la jeune fille à Villefontaine en Isère. L'homme a avoué les faits auprès des enquêteurs. C'est la confusion au sommet de l'État. Emmanuel Macron avait annoncé une aide exceptionnelle de 150 euros aux bénéficiaires des APL. Mais le gouvernement est revenu sur cette affirmation. On décrypte ça dans ce journal.
Et on commence ce journal avec le retour d'un ancien président bien connu des juges.
Nouvelle tourmente judiciaire pour Nicolas Sarkozy. Il a été mis en examen lundi pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de sa campagne de 2007. C'est ce qu'a annoncé le parquet national financier ce midi. C'est la quatrième poursuite contre l'ancien président dans cette affaire. Il est déjà mis en examen depuis 2018 pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Permission de minuit ce soir dans les 9 métropoles concernées par le couvre-feu sanitaire. Après ça, si vous êtes dehors sans attestation, vous risquez une amende. Parmi les plus touchés par cette mesure, il y a les étudiants. Alizé Cheboub est allé voir comment ils ont accueilli cette nouvelle.
Ils étaient nombreux, mercredi soir, à attendre l'interview du président. Des étudiants s'étaient réunis pour l'occasion.
Pour cette option-là, le couvre-feu, est-ce que c'est le cas?
Oui.
Plus de bars, plus de restaurants, plus de soirées étudiantes. La vie sociale des jeunes en prend un coup. Une décision que ne comprend toujours pas Lola en deuxième année de chimie.
Moi, ça m'effraie un peu le couvre-feu. J'ai un peu l'impression d'être dans une dictature. Ça me fait un peu peur. On a vraiment l'impression qu'on est là juste pour travailler et que pour notre vie sociale, que nini.
Pourtant, ces mesures sont indispensables, selon Pascal Jallon, médecin au CHU de Grenoble.
Les étudiants vont avoir leur semaine de vacances, ils risquent de partir dans leur famille, et là, ils risquent de diffuser à des personnes qui risquent, malheureusement, d'avoir des conséquences dans le mois qui suit après. Si vous voulez passer des fêtes de Noël avec vos parents et vos grands-parents, il ne faut pas les voir à la Toussaint.
Si certains jeunes comprennent la démarche, d'autres la trouvent inappropriée. Ils déplorent en effet leurs conditions de travail, comme Justin, 19 ans.
Tout ce qui est fac, tout ça, c'est les lieux où je pense qu'il y a le plus de passages. Puis on voit, il n'y a pas que des étudiants, il y a des chercheurs, tout ça. Et c'est les endroits qu'on ne ferme pas, en fait. C'était une bonne mesure quand même, mais il y a quand même d'autres choses à faire avant. Il y a certaines annonces auxquelles les gens s'attendaient, par exemple pour les hôpitaux, les aides, tout ça, qui n'ont pas été faites.
Pour l'instant, cependant, tout manquement au couvre-feu sera sanctionné par une amende de 135 euros.
Et il n'y aura pas d'exception au couvre-feu pour les cinémas et les théâtres. Après Bruno Le Maire ce matin, c'est maintenant le Premier ministre Jean Castex qui ferme la porte à un assouplissement de cette mesure. Les négociations amorcées par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, n'ont donc pas convaincu. Bernard Vollmer est directeur de cinéma à Grenoble. Il a perdu 70% de son chiffre d'affaires. Alors pour lui, l'idée d'un couvre-feu, ça ne passe pas.
21h, c'est beaucoup trop tôt. Ça casse tout. Ça casse la journée.
les films de soirée qu'on ne peut pas passer. C'est une catastrophe. Entre les distributeurs qui ne sortent pas les blockbusters, les pouvoirs publics qui nous font l'ouverture des salles le 22 juin, alors que c'est la période la plus creuse dans le milieu du cinéma. Les plus grosses périodes sont novembre, les fêtes de Noël et février et Pâques. On nous ampute les vacances de novembre. Le problème, c'est qu'on est en train de bouffer notre trésorerie. On doit recevoir des aides, mais on va avoir une misère quoi, par rapport à ce qu'on aurait dû faire. On est très en colère parce que c'est une profession. Les petits cinémas ont rendu mal à ça en fait. Extrêmement grave ce qui se passe. Le cinéma est en péril en général.
La Fédération nationale des cinémas évoque déjà une baisse de fréquentation de 50 à 70% dans les salles obscures depuis le début de la crise sanitaire.
Cafouillage au sommet de l'État sur la question des APL.
Oui, il y a eu confusion lors du discours d'Emmanuel Macron. Le président avait promis mercredi soir une aide exceptionnelle de 150 € pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Mais ce matin, revirement, le gouvernement est revenu sur cette annonce. Lou Momège, finalement, qui est concerné par cette aide ?
Eh bien, les bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, ça c'est sûr, ils obtiendront bien une aide de 150 €. En revanche, pour les foyers qui touchent les APL, c'est plus compliqué. Les bénéficiaires de l'aide au logement auront droit à une aide de 100 € par enfant s'ils en ont, sinon rien. On est donc loin des 150 € promis à la base par le président. C'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est un peu enflammé mercredi soir, et ça passe mal, surtout auprès des étudiants. En effet, les 18-25 ans ne touchent pas le RSA, et s'ils bénéficient des APL à cet âge, ben souvent ils n'ont pas d'enfants. Donc c'est une majorité d'étudiants qui se retrouvent exclus de cette aide financière. Ce matin, Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, dénonçait carrément un délaissement des jeunes au micro de France Info. Point positif, l'exécutif annonçait aujourd'hui que les jeunes en situation de précarité recevraient un soutien effectif. Le Premier ministre Jean Castex devrait préciser cette mesure dès demain matin, à l'occasion d'une journée de lutte contre la pauvreté.
L'enquête sur la mort de Victorine Dartois en Isère se poursuit. Hier soir, le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, a annoncé la mise en examen du suspect pour meurtre précédé d'une tentative de viol. Le jeune homme de 25 ans a reconnu son implication dans cette affaire. Christelle Delfos, est-ce que sa version des faits convainc les enquêteurs ?
Eh bien oui et non, Ludovic Bertin, le suspect dont l'identité a été dévoilée hier, n'a donné aucun mobile pour ce meurtre. Mais ses déclarations ont pu être en partie confirmées grâce à une remise en situation hier matin sur le lieu présumé du crime. Dans sa version des faits, il explique avoir croisé la route de Victorine le 26 septembre, alors qu'il faisait un footing et elle rentrait chez elle. Il l'aurait bousculée, entraînant une dispute entre deux. Ludovic Bertin dit avoir paniqué, l'avoir saisie à deux reprises par le cou en serrant très fort. Il avoue ensuite avoir déposé le corps de la victime dans l'eau pour tenter de le dissimuler. Cependant, il nie le caractère sexuel des faits qui lui sont reprochés. Le parquet a justifié la mise en examen pour tentative de viol par le fait que la victime avait été retrouvée avec son pantalon en bas des jambes. Le procureur de Grenoble explique que sur ce point, les explications de l'accusé ne sont pas convaincantes.
Et dans cette affaire, le suspect encourt la prison à perpétuité. Il est actuellement devant le juge des libertés qui devrait le placer en détention provisoire. Israël approuve la construction de nouveaux logements dans ses colonies en Cisjordanie et ça fait grincer des dents parmi les pays européens. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont fait une déclaration commune ce midi. Ces pays déplorent une violation du droit international, mais aussi la mise en péril de la viabilité d'une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8. Merci Lucille pour ce journal, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble, il est 16h38. Dans un instant, le dossier de la semaine consacré aux élections américaines, Trump contre Biden, c'est le match qui secoue les États-Unis depuis quelques semaines et on en parle dans quelques minutes.
Tu fuis, tenant le spleen en laisse, tu déjoues la mélancolie et ça donne envie. Je fais brille, noircis des pages en âge de ton portrait. Entre mille, retrouverai ton visage, les yeux fermés. I don't want to lose it. But I can explain the magic. Girl, I fell in love with your imperfection. I don't want to lose it. But I can explain the magic. All that silly world needs more imperfection. Je rêvais de l'automne, fatigué des cendres d'été, le cœur asséché.
salée par la mer ou salée par les larmes. Quelle différence ces hivers t'auront donné le charme de l'insolence. I don't want to lose it, but I can explain the magic. Explain the magic, girl. I fell in love with your imperfection. I don't want to lose it, but I can explain the magic. All that silly world needs more imperfection. I don't want to lose it, but I can explain the magic.
Imperfection du groupe Elephants. Vous êtes toujours sur Radio Campus. Il est 16h42 et tout de suite, c'est le dossier.
You are fake news.
Le dossier de la semaine.
Will you shut up, man? America, fuck yeah,
coming again to save the motherfucking day, yeah. Voilà, jingle de circonstance pour ces élections. D'ailleurs, Mathilde Cariou nous emmène aux États-Unis pour ce dossier où on va parler campagne présidentielle, mode de scrutin et scénario catastrophe. Tout un programme. Alors que le vote a lieu dans seulement 18 jours, il reste encore beaucoup d'incertitudes sur l'issue de cette élection.
Oui, d'après les sondages, le président sortant Donald Trump a environ 4,5 points de retard sur son adversaire démocrate Joe Biden. Mais dans les faits, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient venir faire basculer le cours des choses. Et pour en parler, j'accueille en studio Grégory Albisson, maître de conférence spécialiste des pays anglophones. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également en ligne avec Gretchen Pascalis, présidente de Democrats Abroad, la communauté démocrate de la région Rhône-Alpes. Bonjour Gretchen.
Bonjour.
Corentin l'a dit en introduction, l'élection présidentielle aura lieu dans moins de 3 semaines maintenant. La campagne a démarré sur les chapeaux de roue avec ce premier débat entre Donald Trump et Joe Biden le 29 septembre dernier. Un débat assez peu fructueux, comme on a pu le constater. Ma première question s'adresse à vous, Gretchen Pascalis. Est-ce que, selon vous, les conditions qui ont mené à la victoire de Donald Trump en 2016 sont réunies aujourd'hui pour lui offrir un second mandat, ou est-ce qu'au contraire vous sentez que quelque chose a changé de manière radicale?
Suite au débat?
Depuis l'élection de 2016, est-ce que la situation à la fois sociale, politique, électorale a changé aux États-Unis?
D'accord. Oui, bien sûr, ça a changé parce qu'on n'a jamais eu un président comme Trump avant. Donc c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Je pense que même il y a des personnes qui espéraient, je pense que tout le monde espérait qu'il allait être un bon président, tout le monde espérait qu'il allait nous surprendre, jouer vraiment son rôle de président. Mais malheureusement, on était déçus, surtout nous les démocrates, mais même des républicains. Et donc bien sûr, le climat a changé, mais le pays reste divisé.
Grégory Albisson, sur le climat électoral et politique aux États-Unis.
C'est un peu un contexte hors norme. Bon, déjà, il y a la pandémie. On dit souvent que pour le président sortant, une tentative d'élection pour un deuxième mandat, c'est plus un référendum que toute autre chose. Avec un président qui joue sur la fracture sociale, qui a été critiqué pour sa gestion de la crise. Qui a qu'un mot à la bouche, c'est dominer, il faut dominer le Covid, je l'ai dominé moi-même, par rapport au contexte et à la fracture raciale. quand il y a eu des démonstrations pour Black Lives Matter, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gronde ses gouverneurs en disant « vous dominez pas la situation ». Donc on a ce style-là. Qui avec un président complètement imprévisible. Il y a 4 ans, tant que je disais non, c'est pas possible que Trump passe, là, je préfère pas me prononcer. Voilà.
Et vous l'avez dit, c'est pas une année comme les autres, hein, on va pas pouvoir échapper au sujet du moment, le Covid. On a appris récemment que Donald Trump et une partie de son entourage avaient été testés positifs, ça a un peu modifié le rythme de la campagne. Mais surtout, précaution sanitaire oblige, les électeurs ont été appelés à voter par correspondance. C'est un mode de scrutin qui fait débat, on va en reparler, mais juste avant, Colin Mollard nous a préparé un point sur le système électoral aux États-Unis, un système qui n'est pas toujours très clair pour nous, puisque les citoyens américains ne choisissent pas directement leur président.
Le 3 novembre, les citoyens iront voter dans chaque État pour choisir des grands électeurs. Ils se prononcent pour le candidat démocrate ou républicain. Le parti qui arrive en tête désigne alors tous les grands électeurs de l'État, indépendamment du pourcentage de voix obtenues. C'est le système du « winner take all ». Chaque État a un nombre de grands électeurs qui varie en fonction de sa population. Ils sont 538 en tout et forment le collège électoral. Ce sont eux qui voteront pour le président en décembre. Et pour être élu, il faut réunir au moins 270 voix. Dans certains États, les dés sont jetés. Par exemple, le Texas a toujours voté républicain, alors que l'État de New York est fidèle aux démocrates. Mais certains qu'on appelle les swing states peuvent faire basculer le scrutin, comme la Floride ou la Pennsylvanie. Le paradoxe dans tout ça, c'est qu'un président peut être élu alors qu'il est minoritaire en nombre de voix sur l'ensemble du pays. C'est ce qui s'est passé en 2016 pour Hillary Clinton, qui avait une avance de près de 3 millions de voix sur Donald Trump.
Voilà, et donc les choses se compliquent encore un peu plus cette année avec le vote par correspondance. Pardon. Cette semaine, on comptabilise déjà plus de 10 millions de votes faits à distance. Est-ce que c'est une situation qui pourrait se généraliser, Grégory Albisson ?
Clairement, parce que d'après les sondages, ce serait 76% de l'électorat qui serait susceptible de passer par la voie postale. Voilà, ce qui pose des problèmes de logistique et de saturation pour les services de poste des États-Unis. Donc un décompte des votes... qui pourrait s'étaler sur plusieurs jours. Voilà.
Oui, vous l'avez dit, le vote par correspondance, ce n'est pas facile à généraliser. Déjà parce que les États-Unis, c'est un État fédéral, donc les conditions d'accès à ce vote-là ne sont pas forcément les mêmes dans tous les États. Et c'est beaucoup, beaucoup de courriers, un gros travail de dépouillage. Est-ce qu'il est possible qu'on n'ait pas de résultat le soir du 3 novembre ?
Je pense que c'est fort possible. Voilà. Maintenant, après, il y a un scénario que beaucoup d'analystes redoutent. C'est qu'un des candidats soit donné vainqueur, annoncé en tout cas vainqueur, et qu'au fil des décomptes des jours, le véritable vainqueur des élections ne soit pas le candidat annoncé. Ce qui, du point de vue de Donald Trump, pourrait poser un gros problème.
Voilà. Ouais, tous les scénarios sont envisageables. D'ailleurs, les gens en ont conscience et certains ont décidé de se réunir pour s'y préparer. C'est notamment le cas du groupe démocrate anti-Trump Transition Integrity Project. On écoute Christelle Delfos à ce sujet.
C'était au mois de juin et ils étaient une centaine de personnalités à s'être réunies, entre autres des anciens membres du gouvernement, des journalistes, des experts en politique, en sécurité nationale et en réforme démocratique. Ils ont participé à des scénarios de jeux de guerre à propos de l'élection du 3 novembre pour imaginer ses conséquences immédiates. Parmi les options étudiées, une seule ne mène pas à une crise politique ou à des manifestations violentes. C'est celle de la victoire décisive de Joe Biden. Les autres scénarios, qui sont une large victoire de Donald Trump, une victoire étroite du républicain ou une du démocrate, font redouter le pire. On imagine par exemple des affrontements entre manifestants anti-Trump et des milices d'extrême droite, une intervention de l'armée, Donald Trump qui refuse de quitter la Maison-Blanche ou encore une sécession des États de la côte ouest par les démocrates. En bref, pas mal d'événements qui ont de quoi inquiéter, le but étant de se préparer au pire. Partout sur le territoire américain, d'autres organisations pro-démocrates s'organisent pour, disent-elles, sauvegarder l'État de droit et garantir un résultat législatif.
Gretchen Pascalis, vous avez entendu les dénouements envisagés par ces organisations. On parle carrément de guerre, presque de guerre civile et de l'armée dans la rue. Est-ce que ces scénarios vous paraissent vraisemblables et probables ?
Bien sûr, il y aura beaucoup de personnes dans le camp Trump qui vont pas être contents, qui menacent, mais en fait sa transition paisible du pouvoir, c'est vraiment fondamental dans notre démocratie. Alors là, on a un président qui semble ne pas soutenir ce passage paisible de pouvoir, et c'est absolument incroyable. C'est un président c'est un président qui cherche à parler que à sa base et qui n'essaie pas du tout de rassembler les Américains, le peuple américain. Et ça, ça va être un travail du président élu, Biden, de vraiment rassembler le pays au mieux possible après 4 années de division comme on n'a jamais vu.
Vous l'avez dit, Donald Trump est plutôt contre un passage paisible du pouvoir. Si le résultat de l'élection est contesté, c'est la Cour suprême des États-Unis qui va devoir trancher. Et c'est déjà arrivé en 2000, après 5 semaines à recompter les voix, la Cour suprême avait accordé la victoire à George W. Bush. Le point ici, c'est que la Cour suprême est majoritairement républicaine et elle pourrait le devenir encore plus avec la nomination de Amy Coney Barrett, qui est actuellement auditionnée par le Sénat. Qu'est-ce que cette nomination-là pourrait changer, Christiane Pascalis?
Ça pourrait changer que c'est encore quelque chose qui n'est pas éthique du tout, qu'il y aura peut-être une nouvelle juge qui a travaillé déjà pour les républicains dans son passé pas lointain, mais dans sa carrière récente. Elle a travaillé de façon partisane pour les républicains. Alors le fait qu'un nouveau juge du Cour suprême pourrait être dans ce cas-là, et elle a dit que dans ce cas-là, elle a répondu quasiment à aucune question intéressante devant le Sénat. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'elle va faire, ce qu'elle ne va pas faire. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et oui, c'est inquiétant. Alors, je dirais que Trump n'a jamais dit qu'il est contre le passage paisible du pouvoir, mais il dit que voilà, il est prêt à faire ce qu'il faut si les élections ne sont pas sûres. Alors, ça laisse beaucoup de questions.
Et il faut savoir que les juges à la Cour suprême sont nommés à vie et qu'il est impossible pour le président élu de faire remplacer un juge. Il peut éventuellement en nommer d'autres pour rééquilibrer en quelque sorte le pouvoir, parce que la Cour suprême n'a pas de limite concernant le nombre de juges, mais ça n'a jamais été fait. Et on lit beaucoup que c'est un pari risqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure c'est un pari risqué ?
En fait, ça a été fait. Hein. Donc, en fait, la Cour suprême, y a très longtemps, y avait moins de juges. Et donc, on peut envisager un moment où, effectivement, on met plus de juges pour équilibrer un peu les philosophies de la Cour suprême. Et Joe Biden, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Il dit que normalement, il va se prononcer avant les élections. Mais il attend de voir si Amy Coney Barrett est élue sur la Cour suprême avant de se prononcer.
On connaît bien les positions et la personnalité de Donald Trump, mais j'aimerais bien revenir un petit peu un instant sur son adversaire, Joe Biden. Pendant la campagne et pendant les primaires notamment, il a été en partie éclipsé par sa colistière, Kamala Harris. Mais Joe Biden, il est sénateur depuis 1972, il est adversaire déclaré de Trump depuis 2016, mais il est surtout connu comme l'homme du compromis. Il a été, par exemple, il a proposé à Bernie Sanders de faire partie de son équipe alors qu'il l'a écrasé aux primaires. Il tend la main autant que possible aux républicains pour être le président de tous. Mais du coup, est-ce qu'on peut se demander si les gens qui vont voter pour Biden, ils vont vraiment voter pour Biden ou est-ce qu'ils vont voter contre Trump ? Grégory Albizon. Okay.
Effectivement, donc il se présente il est donné comme le président du consensus, du compromis. Lui-même, il a utilisé une métaphore et c'est aussi par rapport à son âge. Il a dit que ce serait un pont. Alors là où Trump parlait de mur, lui, il parle de pont, pont entre les générations, pont entre les Américains. Il y a quelque chose dans son programme. Effectivement, on peut se dire les gens vont voter. Enfin, une partie de l'électorat va voter contre Trump. Ce qu'il y a d'intéressant chez Biden, c'est le projet écologique avec une transition verte, Green Deal, où il propose, où il s'engage à la neutralité carbonique d'ici 2050. Et ça peut séduire. Et ça peut justement, les Américains peuvent voter pour ce projet-là.
Merci Grégory Albizon. Merci Christiane Pascalis aussi. On va devoir conclure ce dossier. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci. Et je repasse
peut-être
le micro
juste
à...
Juste très très brièvement. Merci Mathilde. Très très brièvement, juste pour comprendre un petit peu la ligne politique de Joe Biden, Grégory Albizon, si on devait le comparer en France à une philosophie politique ou à une personnalité politique, ça se rapprocherait de qui ?
Je pense que c'est une question très difficile parce que culturellement et idéologiquement, un parti qui serait considéré comme progressiste en France, aux États-Unis, peut être considéré comme très à droite en France. Et moi, je penserais que Biden serait un centriste progressiste. Après, je vois pas d'équivalent. C'est peut-être d'équivalent possible. Mais en tout cas, il croit en un système d'assurance de santé. Voilà, ça le place vraiment du côté des candidats progressistes. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Donc du coup, si on résume, le climat a changé, le mandat de Trump a été marqué par de nombreux bouleversements, le dernier en date évidemment le Covid, mais voilà, ça peut complètement changer la donne. Il n'est pas question encore de faire des pronostics, si j'ose dire. Le vote à distance pourrait clairement se généraliser et l'issue de cette élection qui pourrait potentiellement mal tourner avec des scénarios envisageant allant jusqu'à l'armée dans la rue. Radio Campus, il est 16h56. Tout de suite, allez, la suite.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
La noix de Grenoble est une institution dans la région. Sur l'exploitation de Jérémy Chaffanel, nuciculteur en AOP et bio à Saint-Lathier, les journées sont plutôt longues. Pour pouvoir finir la récolte de ses 126 hectares, il ne compte pas les heures pendant cette période charnière. Shannon Marini.
La récolte des noix, c'est une course contre la pluie pour une raison simple. Les machines abîment le sol une fois qu'il est humide. Elle a commencé il y a 15 jours pour Jérémy et ses 6 salariés à un rythme soutenu.
On vit en permanence avec la météo. Donc les quelques jours de beau, ça nous est arrivé de tourner exactement en 2-12 ou en 3-8, ça dépend. Mais on tourne jour et nuit vraiment dans les périodes de beau temps.
Première étape, le secouage. Avec un bras mécanisé, la machine vient attraper le tronc du noyer pour le secouer et faire tomber les noix.
Donc j'ai un gars qui a attaqué hier matin à 3h. Donc généralement, il se couvre en moyenne 20 hectares par jour de vergers, ce qui représente 2000 arbres.
Justement, son employé Robin est encore au milieu des noyers à secouer à 20h passées.
La période où on se met à 200%, voilà, on travaille de jour, de nuit, on se met un peu à fond, quoi. Si le temps nous le permet, je vais finir les parcelles qui restent à secouer. Et puis voilà, on regarde pas trop l'heure en principe. On travaille en roulement en fait, donc on est deux personnes, on s'échange un petit peu la machine. Et histoire qu'elle tourne tout le temps.
Pour tenir le rythme et secouer 20 hectares de noyer dans la journée, Robin et Jérémy peuvent compter sur des machines performantes.
Et en temps de squash, t'es à combien, Robin, là ?
3 secondes.
Mais par contre, là, on est sur un modèle de secoueur industriel. En 3 secondes, il reste vraiment plus une noix.
Efficace, sauf quand les machines font faux bond. Ce jour-là, une des deux ramasseuses est tombée en panne. Un aléa qui fait partie du quotidien de Jérémy et qui s'ajoute à la cadence imposée par la météo. Une météo qui peut aussi mettre en péril toute une récolte.
C'est un beau métier, mais trop tributaire du temps. Et aujourd'hui, pas assez suivi par les assurances multiclimatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je me diversifie ou que je regarde un autre secteur, ça sera vraiment pour venir en complément du secteur agricole, pour que les mauvaises années, il y ait quelque chose qui soit complémentaire.
Se diversifier, c'est un enjeu majeur pour ce nuciculteur, même si ses noix alimentent plus de 500 magasins bio autour de Grenoble.
Merci Shannon pour ce reportage au cœur de la noix. 16h58, c'est l'heure du rappel des titres avec Lucille Bess.
Un homme de 25 ans mis en examen pour le meurtre de Victorine Dartois en Isère. Placé en garde à vue mardi, il a confirmé devant les enquêteurs son implication dans la mort de la jeune fille de 18 ans. Le couvre-feu, c'est la mesure annoncée par Emmanuel Macron pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Elle entre en vigueur ce soir à minuit dans les 9 métropoles concernées. Dès samedi, à Paris, Grenoble ou encore Lyon, extinction des feux à 21h. Les règles doivent être les mêmes pour tous. Jean Castex a douché les espoirs du secteur du spectacle qui espérait des assouplissements des mesures du couvre-feu sanitaire pour le monde de la culture. Nicolas Sarkozy estime son innocence bafouée dans un post Facebook publié ce midi. Il est mis en examen une quatrième fois dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Le parquet national financier a annoncé aujourd'hui des poursuites contre l'ancien chef d'État pour association de malfaiteurs.
16h59, c'est déjà la fin de Microcité, mais rassurez-vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle demi-heure d'actu. Merci de nous avoir suivis pour cette troisième émission. Merci à toute l'équipe des journalistes. Merci à Louis Oscovin à la technique. Si vous voulez réécouter cette émission, pas de problème. Vous pouvez la retrouver sur radiocampus.fr ainsi que sur nos réseaux Twitter, Facebook, Instagram. Rendez-vous vendredi prochain, même heure sur Radio Campus. Et d'ici là, Portez-vous bien.